il avait utilisé le souffle contrôlé, calmé son esprit sans cesser d'écouter leur ravisseur. Celui qui était sourd posait un problème, mais Paul réprimait son désarroi. Le régime d'apaisement mental Bene Gesserit que lui avait enseigné sa mère le maintenait parfaitement éveillé, prêt à utiliser la moindre occasion. Une nouvelle fois, il entr'ouvrit rapidement les paupières pour examiner le visage de sa mère. Elle ne paraissait pas blessée, mais elle était bâillonnée. Il se demanda qui l'avait capturée, elle. Pour lui, c'était parfaitement clair. Il s'était couché avec une capsule prescrite par le docteur Yue et il s'était réveillé sur cette litière. Peut-être cela s'était-il passé à peu près ainsi pour sa mère. La logique disait que le traître était Yue, mais il ne s'était pas encore définitivement prononcé sur ce point. Il ne pouvait comprendre. Un docteur Souk? Un traître? La litière s'inclina légèrement au passage d'une porte, puis ils se retrouvèrent dans la nuit étoilée. Une bouée de suspension frotta la paroi, puis les pas des soldats craquèrent dans le sable. L'aile noire d'un orni apparut, occultant les étoiles. La litière fut déposée sur le sol. Paul ajusta sa vision à la faible clarté. Il vit que c'était le soldat sourd qui ouvrait la porte de l'orni. Il se penchait à l'intérieur, dans la pénombre colorée de vert par le tableau de commande. « C'est celui que nous devons utiliser ?» demanda-t-il en se retournant pour observer les lèvres de son compagnon. « Le traître a dit qu'il était prévu pour le désert. » Le sourd acquiesça. « Mais c'est un orni réservé aux proches liaisons. On ne pourra pas monter à plus de deux là-dedans. »«
Deux, c'est assez, » dit le troisième soldat.
Il s'avança à son tour afin que le sourd pût lire sur ses lèvres.
« On peut s'en charger tout seul à partir de maintenant, Kinet. » « Le baron m'a dit de m'assurer de leur sort, » dit l'homme aux cicatrices.
« Pourquoi t'en faire comme ça ?»«
C'est une sorcière Bene Gesserit. Elle a des pouvoirs. »«
Ah !» L'homme leva le poing près de son oreille.
« C'en est une, vraiment. »
« Je vois ce que tu veux dire. »
L'autre soldat grommela.
« Elle servira de repas ouvert bientôt. Vous ne croyez quand même pas qu'une sorcière Bene Gesserit peut venir à bout d'un de ses gros vers, non ?»« Hein, Zygo ?»«
Ouais. »
L'homme revint près de la litière et prit Jessica sous les épaules.
« Viens, Kinet. Tu peux faire le voyage si tu tiens vraiment à voir comment ça se passe. »«
Gentil de ta part de m'inviter, Zygo !»
dit le sourd. Jessica fut soulevée. Elle vit tournoyer l'aile, les étoiles. On la poussa à l'arrière de l'orni et ses liens de Crimskell furent soigneusement examinés. Puis on fixa ses courroies. Paul la rejoignit. Il fut harnaché à son tour et elle s'aperçut alors que ses liens étaient faits de cordes ordinaires. L'homme aux cicatrices, celui qui était sourd et portait le nom de Kinet, prit place devant. Celui qui s'appelait Zygo prit l'autre siège. Kinet ferma la porte et se pencha sur les commandes. L'ornithoptère s'éleva brusquement et se dirigea vers le sud, vers le bouclier. Zygo tapota sur l'épaule de son compagnon et dit « Pourquoi ne jettes-tu pas un œil sur eux ?»«
Tu connais la route ?»
répliqua Kinet sans quitter ses lèvres des yeux.
« J'ai entendu ce qu'a dit le traître comme toi. »
Kinet fit pivoter son siège. Jessica vit le reflet des étoiles sur le pistolet laser qu'il tenait. Ses yeux s'accoutumaient à la pâle clarté qui régnait dans l'orni, dont les minces parois semblaient pourtant laisser filtrer un peu de la lumière extérieure. Le visage du soldat sourd, pourtant, restait indistinct. Jessica tira sur la ceinture de son siège et découvrit qu'elle était lâche. La courroie sur son bras gauche avait été presque sectionnée et elle céderait au premier mouvement brusque. « Quelqu'un est-il venu auparavant dans cet orni pour le préparer pour nous ?» se demanda-t-elle. « Qui ?» Lentement, elle éloigna ses pieds entravés de ceux de Paul.
« C'est vraiment une honte de perdre une femme aussi belle !» dit le sourd. « T'as jamais eu des filles de la noblesse ?»
Il s'était tourné vers le pilote.
« Toutes les Bene Gesserit ne sont pas nobles, » dit ce dernier. Mais elles en ont toutes l'air.
Il me voit suffisamment bien, pensa Jessica. Elle ramena ses jambes sur le siège et se pelotonna sans quitter le sourd des yeux.
Vraiment joli, tu sais, dit Kinette.
Sa langue courut sur ses lèvres et il ajouta
« Une honte, c'est sûr !»
À nouveau, il regarda Zygo.
« Tu penses ce que je pense que tu penses ?» dit Zygo. « Qui le saurait ?» Après,
Kinette haussa les épaules.
« Je me suis jamais payé une noble. J'aurais peut-être jamais plus une chance pareille. »«
Si vous portez la main sur ma mère !» gronda Paul. Son regard était furieux.
Hé ! Zygo se mit à rire. Le jeune loup se fait entendre, mais il ne peut pas mordre.
La voix de Paul est trop aiguë, se dit Jessica. Pourtant cela pourrait marcher. Le silence retomba.
Pauvres idiots.
Elle regardait tour à tour les deux soldats et repensait aux paroles du baron. Ils seront tués dès qu'ils auront fait leur rapport. Le baron ne veut pas de témoins. L'ornithoptère franchissait la muraille sud du bouclier, et comme il s'inclinait, elle distingua le désert frangé de lune.
On doit être assez loin, dit Zygo. Le traître a dit de les déposer n'importe où à proximité du bouclier.
Il lança l'appareil dans une longue descente vers les dunes. Jessica vit que Paul prenait le rythme respiratoire de l'exercice de maîtrise. Il ferma les yeux, les rouvrit. Jessica l'observait, impuissante. « Il n'a pas encore pleinement contrôlé la voix, » se dit-elle. « S'il échoue... » L'orni toucha le sable avec une légère vibration. Jessica regarda vers le nord, au-delà du bouclier, et elle entrevit l'ombre des ailes d'un autre appareil qui se posait hors de vue.
Quelqu'un nous suit.
Qui ?
Puis, ceux que le baron a envoyés pour surveiller ces deux-là. Et ils seront à leur tour surveillés par d'autres.
Zygo coupa les fusées. Le silence les submergea. En tournant la tête, Jessica put voir par la baie, au-delà de Kinette, le pâle reflet d'une lune qui se levait. Une crête de givre au bord du désert, sur laquelle se silhouettaient des arêtes sableuses.
Paul s'éclaircit la gorge.
« Maintenant, Kinette ?» demanda le pilote. « Je sais pas, Zygo. »
Zygo s'approcha.
« Ah, regarde !»
Il tendit la main vers la robe de Jessica.
« Ôtez-lui son baillon !»
ordonna Paul.
Jessica sentit les mots rouler dans l'air. Le ton, le timbre était excellent. Impératif, net. Un peu moins aigu, c'eût été mieux encore, mais il avait quand même atteint le spectre auditif de l'homme.
Zygo déplaça sa main vers le baillon, tira sur le nœud.
« Arrête !» dit Kinette. « Ah, ferme ton truc, elle a les mains liées !» répliqua Zygo.
Il défit le nœud et le lien tomba. Les yeux brillants, il examina Jessica.
Kinette lui posa la main sur le bras.
« Écoute, Zygo, pas besoin de... »
Jessica détourna la tête et cracha le baillon. Puis elle parla d'une voix basse, sur un ton intime.
« Messieurs, inutile de vous battre pour moi. »
Dans le même temps, elle se levait pour le plaisir des yeux de Kinette. Elle décela leur tension. Elle sut qu'en cet instant précis, ils étaient persuadés qu'ils devaient se battre pour elle. Leur désaccord n'avait besoin de nulle autre raison. Dans leur esprit, déjà, ils se battaient pour elle. Elle dressa la tête dans la clarté du tableau de commande afin que Kinette pût lire sur ses lèvres.
« Il ne faut pas être en désaccord. Une femme vaut-elle que l'on se batte pour elle ?»
Ils s'éloignaient l'un de l'autre, le regard méfiant. En parlant, en étant là, elle représentait la cause vivante de leur lutte. Paul gardait les lèvres serrées, se forçant à demeurer silencieux. Il avait utilisé son unique chance de se servir de la voix. À présent, tout dépendait de sa mère, dont l'expérience était tellement plus grande que la sienne.
« Oui, » dit Kinette, « inutile de se battre pour... »
En un éclair, il lança sa main vers le cou du pilote. Le cou fut paré avec un claquement métallique. D'un seul mouvement, Zygo se saisit du bras de Kinet et lui frappa la poitrine. Le sourd grogna et s'effondra contre la porte.
« Tu me prends pour un abruti ?»«
Tu croyais que je ne connaissais pas ce coup ?» dit Zygo. Il ramena sa main et le couteau brilla dans le clair de lune.
« Et maintenant le jeune loup » dit-il en se penchant vers Paul.
« Inutile !» murmura Jessica.
Il hésita.
« Ne préférez-vous pas me voir coopérer ? Laissez une chance à mon fils. » Ses lèvres dessinèrent un sourire. « Il n'en aura pas tant dehors, dans ce sable. Donnez-lui seulement cette chance et vous pourriez en être bien récompensé. »
Zygo regarda à gauche, à droite, puis son attention se reporta sur Jessica.
« Je sais ce qui peut arriver à un homme dans ce désert. » Le garçon pourrait trouver à la fin que le couteau est la meilleure solution.
« Est-ce que j'en demande autant ?» dit Jessica.
« Vous essayez de me tendre un piège. »«
Je ne veux pas voir mourir mon fils. Est-ce donc un piège ?»
Zygo recula et s'appuya au montant de la porte. Puis il saisit Paul, le tira sur le siège et le maintint immobile, presque sur le seuil, le couteau levé.
« Si je coupe tes liens, jeune loup, que feras-tu ?»«
Il partira aussitôt et il courra vers ces rochers, » dit Jessica.
« C'est ça que tu feras, jeune loup ?»
demanda Zygo. La voix de Paul était judicieusement assourdie.
« Oui. »
Le couteau fut abaissé et les liens tombèrent. Paul sentit la main dans son dos qui allait le pousser, l'envoyer rouler dans le sable, et il feignit de perdre l'équilibre. Il se raccrocha au montant de la porte, pivota comme pour se rétablir et lança son pied droit. L'orteil était pointé avec une grande précision qui était due aux longues années d'entraînement, comme si, en fait, l'enseignement de toutes ces années se concentrait dans cet instant précis. Chaque muscle du corps participait au mouvement. La pointe du pied frappa l'abdomen de Zygo exactement sous le sternum, percuta avec une force terrible le foie et le diaphragme pour venir écraser le ventricule droit. Avec un cri étranglé, Zygo s'effondra sur les sièges. Paul, les mains paralysées, poursuivit sa chute et roula dans le sable, se redressant dans le même mouvement. Il replongea à l'intérieur de la cabine de l'ornithoptère, trouva le couteau et le maintint entre ses mâchoires pendant que sa mère sciait ses liens sur la lame. Ensuite, elle trancha elle-même ceux de Paul.
« J'aurais pu m'occuper de lui, » dit-elle.
« Il aurait bien fallu qu'il me libère. Tu as pris un risque stupide. »«
J'ai vu l'ouverture et j'ai agi, » dit-il.
Elle perçut le ferme contrôle de sa voix et dit « Le signe de la maison de Yue est gravé sur le plafond de cette cabine. » Il leva les yeux. « Sortons et examinons cet appareil, » reprit Jessica. Il y a un paquet sous le siège du pilote. Je l'ai senti en montant à bord.
Une bombe ? J'en doute, c'est quelque chose de bizarre.
Paul sauta dans le sable et elle le suivit. Puis elle se retourna et examina le dessous du siège. Les pieds de Zygo n'étaient qu'à quelques centimètres de son visage. Elle trouva le paquet et le tira à elle. Il était humide et elle comprit aussitôt que c'était le sang du pilote qui le maculait. « Gaspillage d'humidité, » pensa-t-elle. Et c'était là une pensée arachine. Paul regardait de toutes parts. Il vit l'escarpement rocheux qui s'élevait du désert comme une plage prise sur la mer, et au-delà les palissades sculptées par le vent. Il se retourna comme sa mère sortait le paquet et il suivit son regard vers le bouclier. Il vit alors ce qui avait attiré son attention, un autre ornithoptère qui plongeait vers eux. Et il comprit qu'il n'aurait plus le temps de sortir les deux hommes et de fuir.
« Cours, Paul !» cria Jessica. « Ce sont les Harkonnen !»